Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Vous vous souvenez quand Joe Biden, nouveau président des États-Unis, a été inauguré? Il y avait cette jeune poétesse noire, Amanda Gorman, qui est venue livrer un texte absolument superbe. Ce texte doit être traduit, évidemment, dans plein de langues. Et là, on apprend qu'aux Pays-Bas, c'est une jeune femme blanche qui devait traduire sa poésie. Et ça a soulevé un tollé. Il y a des gens qui ont dit, ben non, il y a juste une noire qui peut traduire un texte écrit par une femme noire. On est vraiment rendu là? On est rendu que on regarde la race d'un traducteur pour un texte? C'est rendu qu'il y a juste des blancs qui peuvent traduire des textes de blancs et des noirs, des personnes noires qui traduisent des textes écrits par des noirs? On est vraiment rendu là en 2021? Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand désespéré. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Au cours des derniers jours, j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversée. Ça s'intitule « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poké », en fait une enfant de la DPJ qui a grandi pour devenir une adulte absolument rayonnante, pleine de soleil. Nancy Odette, que vous connaissez bien sûr comme journaliste sportive, elle a travaillé à TVA Sport, a travaillé aussi à Radio-Canada. C'est vraiment un livre extrêmement important. Nancy, bonjour.
Bonjour Sophie.
Bonjour Nancy, j'ai lu votre livre au cours des dernières heures, des derniers jours, et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir vécu une enfance comme celle que vous avez vécue, battue, agressée sexuellement à un très jeune âge, et devenir un adulte aussi solide que vous. C'est quoi votre secret?
Oh. il faudrait qu'on en parle pendant au moins une heure, Sophie, mais... C'est sûr que c'est un processus qui est long. C'est un processus qui demande d'obtenir l'aide dont on a besoin. C'est des thérapies que j'ai accepté de suivre. Plusieurs, je me suis investie pour vrai. Mais aussi des gens, je pense que dans mon parcours, j'ai été chanceuse parce que j'ai croisé de beaux êtres humains et qui, heureusement pour moi, ont cru en moi alors que moi, je ne croyais pas en moi-même. Et c'est pour... Et je sais qu'au Québec, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé la même chose que moi, parce que je dis souvent, mon histoire, elle est unique, bien sûr, parce que c'est la mienne, mais en même temps, je suis consciente que c'est l'histoire de milliers de personnes. Et je reçois beaucoup de messages de gens qui, encore oui. aujourd'hui, adultes, sont en souffrance. Ils sont en souffrance et ils ne savent pas comment enlever ce nuage gris au-dessus de leur tête qui nous suit constamment. Et bien humblement, j'essaie de les conseiller, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et j'espère que ce livre-là, ça va leur donner le goût d'obtenir l'aide dont ils ont besoin, mais que ça va aussi provoquer un désir chez les gens, d'aider les enfants, d'aider les jeunes. On en a beaucoup autour de nous. Et puis, parfois encore, on est tellement occupé, on tourne le regard. On hésite à tendre la main, alors que parfois, quand on tend la main, on peut avoir un impact tellement important dans la vie d'un enfant. C'est pas toujours des gros gestes. Parfois, c'est des petits gestes. Et j'ai envie qu'on redevienne un village, un beau village pour les enfants, qu'on les entoure, on les entoure d'amour. Parce que, vous savez, encore l'année passée, il y a eu plus de 118 000 signalements à la DPJ. C'est ici, chez nous, c'est au Québec. Ce sont nos enfants. Et je pense qu'il est plus que temps que nous aussi, on prenne nos responsabilités par rapport à eux.
Quand arrive un événement comme la petite fille martyre de Granby, on se dit, mais comment ça peut se passer chez nous? Vous, ça vous est arrivé dans votre chair. Alors, je veux pas tout raconter parce que je veux vraiment que les gens lisent votre livre, Nancy. C'est la moindre des choses. Mais en même temps, il faut raconter certains éléments de vos histoires. Agressé sexuellement par un ami de votre mère. En plus, c'est votre mère vous amène chez votre agresseur et elle vous laisse avec cet homme-là. C'est dur à lire. Battu par votre mère et à un moment donné, abandonné par votre mère, parce qu'il y a un signalement à la DPJ. Votre mère se rend à la DPJ avec vous, et qu'est-ce qu'elle dit aux gens de la DPJ quand vous vous retrouvez devant eux?
Mais ça dure 30 secondes. Ça a été tellement rapide. Moi, j'étais sous le choc parce qu'en fait, on était convoqués dans les bureaux parce que dans le fond, quand il y a un signalement, souvent, on va convoquer les parents. Parfois, on va voir les enfants seuls et les parents seuls. Parfois, on va les voir ensemble. Nous, en fait, on a été convoqués ensemble et dès qu'elle a compris qu'on lui demandait ce qui se passait avec moi, dès qu'on lui a dit qu'il y avait eu un signalement, elle s'est tout de suite braquée. Ça a duré 30 secondes. Elle s'est levée, elle a dit, de toute façon, je n'en veux plus de cet enfant-là. Et elle a quitté le bureau et elle m'a abandonnée là avec des travailleuses sociales qui étaient pas mal sous choc. Je n'attendais pas à garder un enfant et à devoir placer un enfant d'urgence, mais aussi la violence du moment, parce que être abandonné comme ça par sa mère, c'est très violent. Moi, je me suis levée, puis je me souviens que je criais dans le couloir, « Maman, maman! » Et puis elle s'est retournée, puis elle m'a dit, « Je ne suis plus ta mère. Ils vont t'en trouver une autre mère. » Et ça, pour moi, ça a été la grande blessure de ma vie. Peu importe ce que j'ai vécu, ça a été la grande fracture, cet abandon-là. Et j'ai réalisé au fil des années que la blessure d'abandon, c'est vraiment la plus difficile à guérir. On perd tout amour de soi-même, surtout quand l'abandon vient de son parent, de sa mère. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'années pour se reconstruire, pour se rebâtir et se dire qu'on vaut quelque chose. Je suis pas... je suis pas la seule à avoir vécu l'abandon et je vois que cette blessure-là autour de moi, elle fait mal. Elle fait mal à beaucoup, beaucoup de gens.
Je sais pas comment vous faites pour raconter ça puis pas partir à pleurer parce que moi, je vous écoute puis je suis effondrée. Est-ce que vous diriez que, que la violence psychologique est plus dure que la violence physique?
Définitivement. Les séquelles physiques, bien sûr qu'il y en a. Mais les séquelles psychologiques sont les plus difficiles à guérir. Et moi, ma mère me disait souvent, avoir su que c'était toi qui étais dans mon ventre, je me serais fait avorter. Et quand j'étais petite, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais la journée où j'ai compris ce que ça voulait dire, je me souviens, j'étais en secondaire 1, j'avais 12 ans, et j'ai demandé à un professeur de m'expliquer ce que ça voulait dire, ça. Et il était bouleversé. Là, après, on m'a fait voir par un psychothérapeute à l'école et tout ça. Mais ça a été très violent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup souffrir, bien plus que tous les coups que j'ai eus dans ma vie, puis j'en ai eu beaucoup. Et je pense que ça, c'est plus violent. C'est pour ça qu'il faut un jour accepter d'obtenir l'aide dont on a besoin, parce que on se doit ça à nous-mêmes. Mm-hmm. La vie, on en a juste une vie. Et peut-être que quelque part, j'avais envie d'être heureuse. J'avais envie un jour d'être capable d'en profiter de la vie, de pas toujours avoir cette boule dans le ventre, avoir cette douleur au cœur qui me suivait, peu importe ce que je faisais. Tu sais, j'ai pu aller étudier à Paris, qui était un grand rêve de ma vie. Et je me souviens que je suis là-bas à Paris, puis je vis un grand moment pour moi, mais j'ai cette douleur-là dans le cœur constamment qui ne me quitte pas. Et jusqu'au jour où je me dis, bon, mais soit que j'en finis, que c'est terminé ma vie, ou que j'obtiens l'aide et que quelqu'un m'aide, parce qu'il faut que ça arrête. Et heureusement, j'ai choisi la deuxième option. J'ai choisi d'être aidée. Et ça vaut la peine. Je vous le dis, qu'on ait 30 ans, 35 ans, 40 ans, ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, je suis bien Et quand tu dis comment tu fais pour me raconter ça, mais tu sais quoi, Sophie? Dans 35 ans, même plus, j'ai été dans le silence complet. Mmh. Le silence est souffrant. J'étais en souffrance dans le silence et j'étais dans la honte. Aujourd'hui, je choisis de parler. Je choisis de prendre la parole et je choisis de me débarrasser de la honte parce que ce n'était pas de ma faute. Et les gens qui ont traversé ça, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. Si vous avez été abandonné, ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas été aimé et si vous avez été maltraité. Aimez-vous maintenant et sachez que je suis certaine que vous pouvez vous entourer de gens qui vont vous aimer aussi. Moi, j'ai eu des anges gardiens sur ma route.
Oui.
J'espère que les gens qui vont lire le livre aussi vont avoir envie d'être un ange gardien parce que c'est sûr que je serais pas là aujourd'hui à vous parler si j'avais pas croisé la route de ces personnes-là dans ma vie, qui sont des femmes, il faut le dire. Monique, mon enseignante, Rosénie qui m'a accueillie en famille d'accueil à deux reprises, également Manon qui m'a accueillie chez elle pendant toutes mes études universitaires et qui n'était pas obligée de faire ça, qu'elles l'ont fait parce qu'elles avaient de l'amour dans le cœur et qu'elles en avaient assez pour redonner à une petite poquée comme moi.
Ouais, une petite poquée. C'est il y a des passages très lumineux bien sûr quand vous racontez les gens qui ont apporté justement de la lumière et de l'amour dans votre vie, il y a des passages sombres. Je parlais tout à l'heure et je m'excuse de revenir là-dessus mais ça me paraît tellement difficile à comprendre. Vous racontez donc vous avez été agressé par Pépère quand vous aviez 5 ans. C'est votre mère qui vous amenait là, puis qui vous laissait avec ce gars-là, qui vous agressait. Et quand il est mort, il a été frappé par une auto. Vos parents vous ont forcé à aller à ses funérailles. Ça, j'avoue que il y a comme une incompréhension de comment peut-on demander ça à un enfant. Est-ce que aujourd'hui vous avez une réponse à cette question-là?
Mais je pense que quand on habite, quand on grandit comme moi, puis dans un petit village de 400 habitants, c'est pas beaucoup. Les apparences sont importantes. Et c'était quand même une autre époque c'était important d'aller au salon funéraire pour exprimer ses condoléances, pour exprimer son soutien. Je sais pas qui a passé dans la tête de mes parents parce que peut-être qu'il y avait aussi une certaine culpabilité parce que ça avait fait quand même une grande histoire dans le village, le fait que j'avais raconté ce qu'il me faisait et je ne suis pas la seule. Il avait fait ça à d'autres enfants aussi. Donc, est-ce qu'on a voulu dire à la famille, « Bon, mais maintenant, il est décédé, on vous pardonne. » Je sais pas c'est quoi. J'ai essayé de savoir. J'ai pas vraiment jamais eu de réponse concrète. Et c'est sûr que moi, cette journée-là, le fait qu'on m'ait obligé à aller au salon funéraire, au fait qu'on m'ait obligé à regarder mon agresseur dans son cercueil, ça a été très traumatique pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai dû travailler en thérapie, vous l'imaginez, pendant longtemps. Parce que moi, dans mon cœur d'enfant, dans ma tête d'enfant, j'avais 7 ans au moment de son décès. Moi, ce que j'ai intégré, c'est que c'était de ma faute s'il était mort. Et je me sentais coupable. Je me disais, j'aurais dû garder ce qu'il me faisait pour moi. Je n'aurais pas dû le dire parce que là, aujourd'hui, il est mort. Et je voyais les gens pleurer autour du cercueil. Et ça m'a complètement bouleversée. Et pendant des années, j'ai gardé cette culpabilité-là jusqu'à ce que j'arrive à l'âge adulte et que je me dis, hey, mais attends, Nancy, cet homme-là t'agressait sexuellement. Cet homme-là te faisait du mal. Profitait de ta vulnérabilité. Parce que les agresseurs, vous le savez, ils vont souvent choisir des enfants qui sont vulnérables. Donc, ils savaient, ils m'avaient choisi à quelque part. Ils savaient que je n'étais pas protégée et qu'ils pouvaient me faire ces gestes-là. Donc, ça aussi, ça a été une blessure que j'ai dû guérir. Et la blessure, vous savez, d'agression sexuelle, elle est vraiment, vraiment difficile. C'est des voleurs d'âme, hein, en fait, ces personnes-là, ces hommes-là, souvent, ce sont des voleurs d'âme. Et on ne mérite pas, en tant qu'enfant, de vivre ça. Et pour la retrouver, cette âme-là, mais c'est ça le que je lance aujourd'hui dans l'univers, c'est plus jamais la honte, c'est aussi ça. Je n'ai pas honte, ce n'était pas de ma faute si on m'a agressé sexuellement. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis quand même chanceuse d'être debout, de me tenir droite, d'être capable de vous parler ce matin. Et ce qui est assez nouveau pour moi aussi, c'est d'être fière de mon parcours, parce que je ne l'étais pas. J'étais incapable de dire ça avant. C'est quelque chose là, de qui est apparu il y a quelques mois seulement, être capable de le dire, ça. Et tu le sais, je suis maintenant marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation Centre Jeunesse de Montréal. Je travaille avec eux depuis 2 ans. Je vois les enfants. Je vais leur rendre visite au centre jeunesse. Et souvent, aux gens, quand on entre dans un centre jeunesse, on n'en sort pas indemne. Parce que ce qu'on voit là, c'est de petites filles, de petits bonhommes parfois, 6, 7 ans, 8 ans, qui ont vécu de graves traumatismes. Et je sais que c'est difficile, vous savez qu'on en parle parce que c'est souffrant, mais si on n'en parle pas,
c'est pire.
On ne les voit pas, c'est pire. Donc je veux qu'on ait cette prise de parole-là, cette conscience-là, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui souffrent du trouble de l'attachement sévère parce qu'ils n'ont pas été aimés, parce qu'on n'a pas pris soin d'eux. Et il va falloir qu'on s'attarde à ces enfants-là. Puis je me dis, le gouvernement, bien sûr, tu sais qu'il va avoir le rapport de la commission Laurent bientôt. Dans 2 mois, il va avoir des recommandations. J'essaie d'avoir confiance. Je sais qu'il y a une volonté politique. Je m'accroche à ça fortement. Parce qu'on doit réformer le système de la DPJ pour qu'il protège adéquatement les enfants, mais plus encore, je dis, en tant que société, il n'y a pas juste le gouvernement qui a une responsabilité, nous aussi, en tant que parents, en tant qu'être humain, on a une responsabilité envers ces enfants-là.
Ben, en tant que voisins, en tant que simplement des gens à l'école, parce que vous, il y a plusieurs moments quand même où les gens auraient pu autour voir ce qui se passait, intervenir. Nancy, il nous reste un petit peu de temps. Je veux absolument vous poser une question parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent se posent la question. Votre mère, vos liens avec cette personne toxique, ça s'est terminé comment?
Un jour, j'ai pris la décision de couper les ponts. En fait, c'est lors d'une grande thérapie, on m'a expliqué que le pardon, ça ne veut pas dire être en contact avec la personne. Le pardon, on le fait avant tout pour nous-mêmes. Moi, j'ai pardonné à ma mère parce que dans ce processus-là, je me suis rendu compte que si je gardais de la colère, de la rancune dans mon cœur, c'était juste à moi que ça faisait du mal. C'est moi que ça rongeait. Je l'ai fait avant tout pour moi. Il y avait un cycle de violence. Vous savez, le cycle de violence
intergénérationnelle.
C'est un cycle qui est difficile à briser. Moi, c'est chez nous, c'était ça datait de plusieurs générations et un jour, j'ai décidé que ça s'arrêtait à moi, que je brisais ce cycle de violence-là. Mais ma mère, un jour en thérapie, on m'expliquait qu'on a le droit. Et c'est aussi ça le message. On a le droit de couper les ponts quand on est dans une relation toxique, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un frère, une sœur, un cousin, un ami, un amoureux. On a le droit de couper un lien toxique qui nous fait souffrir. Le pas est difficile, mais je vous le dis, quand on prend cette décision-là pour nous-mêmes, elle nous fait du bien. On est plus léger, on respire mieux, on dort mieux, on se libère de quelque chose qui est malsain.
Est-ce que vous pensez que votre mère a lu le livre ou va le lire?
Je crois pas. Je pense qu'elle est beaucoup, beaucoup dans la colère. Elle est beaucoup dans la rancune. Ça la ronge beaucoup. Et ce que je lui souhaite, c'est de se débarrasser elle-même de toute cette colère-là, de toute cette rancune, parce qu'elle aussi, elle a une vie très difficile. Les gestes qu'elle a posés, elle les a appris à quelque part. Vous savez, elle a aussi vécu beaucoup de choses difficiles.
Nancy, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de votre témoignage. Vraiment, c'est un livre difficile à lire. Des fois, j'avais envie de prendre des petites pauses, puis je me disais, ben, moi j'ai le luxe de prendre le livre puis de le mettre de côté, mais Nancy, elle a pas eu ce luxe-là. Donc je me suis dit, non, il faut pas que j'arrête, il faut que je continue de le lire, parce que si je prends des petites pauses puis que je m'en vais prendre un bain entre, ben je c'est une façon de manquer de respect. Alors je pense que c'est un livre qu'il faut lire en effet au complet, en continu, ne serait-ce que par respect pour ce que vous avez vécu, puis la force et le courage de votre témoignage. Nancy, votre livre s'intitule donc Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée. En tout cas, la petite poquée est devenue une grande femme rayonnante et pleine de lumière. Merci beaucoup, Nancy.
Merci. Ouvrez votre cœur aux enfants.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Dimanche soir dernier, à l'émission Tout le monde en parle, Guy Lepage recevait son ancien complice, le fou du roi Danny Turcotte, qui est venu parler de l'intimidation ou de la haine qui se déverse à son sujet sur les médias sociaux. Quelque chose me dit que ça va faire réagir mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie.
Avant de commencer cette discussion, si tu veux, on va écouter un petit extrait de Tout le monde en parle de dimanche.
Parce que ça fait 16 ans et demi que je suis ici, ça fait 16 ans et demi que je suis assis dans un hot seat, comme on dit, un poste polarisant où tu passes, mettons, à chaque saison, j'avais 4-5 événements comme ça qui se passaient, des affaires Camara, j'en ai connu plusieurs où je recevais des bêtises pendant au moins 5-6 jours, puis tu te fais dire toute la journée que t'es un trou de cul, à un moment donné, tu te sens comme un trou de cul.
Alors, c'est la phrase clé, hein, à force de se faire dire qu'on est un TDC, on se sent comme un TDC. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, de toute cette controverse, Joseph?
Écoute, Sophie, j'ai un point de vue très nuancé là-dessus.
D'accord.
D'un côté, je comprends très bien qu'il en ait plein son casque. Je comprends très bien qu'un rien est devenu une tempête. Je comprends très bien qu'il vivait dans une sorte de crainte perpétuelle. Mais en même temps, c'est un propos qui me laisse un peu ambivalent. Et je vais te dire pourquoi.
OK.
On sait très bien que les réseaux sociaux sont des égouts à ciel ouvert. On le sait. Tu te rappelles notre naïveté vers, je sais pas, 2005, 2008, quand on se disait, la prise de parole citoyenne, cyberdémocratie, ce sera magnifique, pourquoi seuls les puissants auraient droit à un micro? Mon Dieu qu'on est à cave. Cela dit, quand on utilise soi-même abondamment les réseaux sociaux pour mousser son image, sa notoriété ou ses propres projets. Autrement dit, quand on utilise soi-même beaucoup les réseaux sociaux parce qu'on y trouve des avantages, ben il faut aussi, jusqu'à un certain point, assumer les mauvais côtés qui viennent avec. Évidemment, Sophie, je trace tout de suite une ligne rouge. S'il y a des menaces de mort, s'il y a des menaces d'agression, si on vise tes enfants, ton conjoint, etc., là, évidemment, on dénonce et on va à la police. Quand, évidemment, Danny Turcotte se fait dire « les cordes sont en spécial chez Rona cette semaine », là, je peux comprendre qu'une ligne qui est dépassée. Mais pour le reste, fondamentalement, on peut pas espérer se servir de cela strictement à nos conditions. Sophie, quand on met des patins puis qu'on va sur la glace, il faut qu'on accepte que dans les coins, il y aura des gens qui vont lever les coudes et jouer du bâton. Tu vois, moi, je suis pas, tout le monde en parle, tu vois, je me tiens pas dans ces milieux-là. Mais je vais te dire une chose, j'en ai reçu mon lot d'injures. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai quitté les réseaux sociaux.
Voilà.
Et guess what? C'est la plus belle, une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as essayé ça, mais pour quitter Facebook, j'ai même eu besoin d'un ami expert de ces patentes-là.
Oui, c'est super compliqué.
Pour me sortir de la toile d'araignée.
C'est hyper compliqué. C'est super facile d'ouvrir une page, mais c'est très complexe de la fermer de façon définitive et rédhibitoire. Écoute, je trouve c'est extrêmement intéressant ton point de vue, et je trouve ça intéressant aussi parce que ça détonne du discours ambiant. Et je rajouterais quelque chose à ce que tu dis, c'est que c'est assez étrange d'observer ce qui se passe depuis quelques jours, en fait depuis qu'on a appris que Danny Turcotte quittait, et depuis qu'on a appris que c'était parce que bon, il était plus capable à cause de la haine sur les médias sociaux, d'observer le phénomène suivant. Quand c'est quelqu'un qui fait partie de la gang, de la bonne clique, du bon groupe, du petit regroupement des petits camarades qui disent les bonnes choses et qui se tiennent avec les bonnes personnes, quand c'est quelqu'un de la gang qui est attaqué, la gang serre les coudes. Mais quand c'est quelqu'un qui est extérieur à la gang, qui se fait attaquer, tout d'un coup, ils sont aux abonnés absents. Je veux dire, je veux pas personnaliser le débat, mais prends par exemple Richard Martineau. Hein? Mm-hmm. Il y a quelques années de ça, il y a quand même un média, Ricochet, pour pas le nommer, qui a publié une caricature où on voyait des chiens pisser sur la tombe de Richard. C'était une image d'une violence inouïe. Ouais. Inouïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la gang qui a levé le petit doigt pour prendre la défense de Richard? Imagine si Ricochet avait fait des chiens qui pissent sur la tombe de Danny Turcotte.
Non,
Chiens qui pissent sur la tombe de Safia Nolin. Je veux dire, il y aurait eu un tollé. Moi, c'est ça qui m'écœure au Québec. Je vais le dire, là, haut et fort, il y a deux poids, deux mesures selon contre qui la haine est dirigée. Il faut dénoncer la haine, mais il faut dénoncer la haine envers tout le monde. C'est pas une haine à géométrie variable.
Non, tout à fait. Maintenant, tout à fait. Maintenant, moi, la question, je pense, que chacun d'entre nous, dans l'univers médiatique qu'on doit se poser, c'est, ben dans le fond, c'est la question de Pierre-Yves McSween sur les finances. En as-tu vraiment besoin? et à partir de là, chacun prend ses décisions. Mais si on décide de jouer ce jeu à fond, il vient avec des conséquences. L'autre jour, j'ai eu, je pense qu'il ne m'en voudra pas de le dire, j'ai eu une conversation là-dessus avec notre ami commun, Mathieu Boccoté. Et ouais. Mathieu me disait, écoute, primo, je pense que ça donne un écho supplémentaire à mes chroniques. Très bien, ouais. Bravo. Et ensuite, il me disait, si quelqu'un m'achale trop, ben je lui coupe le sifflet, tout simplement.
Voilà, tu bloques.
Autrement dit, si tu vas là-dessus, tu assumes. Plus largement, pensons-y, mettons qu'on se met en tête d'essayer de, entre guillemets, nettoyer les réseaux sociaux. Ah ouais? Comment on ferait ça? D'un côté, si tu demandes au gouvernement d'intervenir,
c'est bonne question.
Tu sais comment c'est extraordinairement délicat pour les gouvernements de commencer à légiférer sur quels propos sont acceptables ou pas. D'un autre côté, si tu demandes, mettons, à Facebook de policer un petit peu ce qu'il fait circuler, excuse-moi, là, est-ce que c'est le rôle d'un acteur privé de décider ce qui est acceptable ou pas? Il est élu par qui, Zuckerberg? Il est imputable devant qui? Il aurait quelle légitimité pour dire ça, je le permets et ça, je le permets pas? Autrement dit, ben oui, on a découvert, entre guillemets, depuis déjà une bonne quinzaine d'années, l'extraordinaire coefficient de méchanceté, frustration, ressentiment d'un paquet de gens qui aujourd'hui ont un mégaphone. En attendant le débat de société, qui viendra peut-être jamais sur ce qu'il y aurait moyen de faire là-dessus, ben moi je dis tout simplement, lâchez-les, quittez-les.
Voilà.
En avez-vous vraiment besoin? Et si on me dit, ah, ben, tu sais, nous, on est une émission d'affaires publiques, il faut qu'on reste connecté sur le vibe de la société, ben, très bien. Mettez donc un ou une infortuné recherchiste qui, lui, va faire le monitoring de ça. Mais est-ce que M. Turcotte lui-même, ou M. Lepage lui-même, ou M. Chosbin lui-même a besoin d'être sur Twitter à longueur de journée? Je ne pense pas.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un autre phénomène qui est des gens qui tapent leur nom sur sur Google, sur qui s'auto-Google ou qui tapent leur nom sur Twitter ou sur Facebook pour voir ce que les gens disent d'eux. Et ça, c'est maladif parce que tu devrais normalement t'en contre-ficher de ce que les gens pensent de toi. Moi, l'image que j'utilise tout le temps, c'est quand tu marches dans la rue. Hein? Il y a sûrement des gens qui se disent « Ah, elle est donc ben mal habillée. Ah, mon Dieu, elle a donc ben l'air fatiguée. Ah, mais donc, as-tu pris du poids? Elle est donc ben grosse. » Normal, tu les entends pas penser, mais les gens pensent toutes sortes de choses à ton sujet. Les médias sociaux, c'est que tu mets le son. T'entends ce que les gens pensent à voix haute, mais as-tu vraiment besoin d'entendre ce que les gens pensent à voix haute? Ça nous rend débiles mentaux. Je veux dire, ça ne tient pas debout. Donc, j'aime beaucoup ta réflexion de dire coupons-nous de ces médias sociaux-là. Et s'ils s'étaient en effet coupés des médias sociaux, peut-être que Dany Turcotte aurait tout simplement, se serait tout simplement concentré sur ce que Monsieur Camara lui a dit, parce qu'il a contacté Monsieur Camara après son commentaire sur le cellulaire. Monsieur Camara lui a dit, ben voyons donc, il y a aucun problème, je l'ai pas du tout pris personnel. Il aurait dit, ben c'est parfait, merci beaucoup, bonsoir. Et ça n'aurait pas eu de conséquences. Alors, c'est que Dany Turcotte s'est fié beaucoup plus à ce que Tartampion 23 et Bisoun 92 pensaient de son entrevue avec M. Camara que de l'opinion de M. Camara lui-même.
Voilà. Et si quelqu'un ne peut pas s'empêcher d'être là-dessus pour voir ce que les gens pense de lui parce qu'il a un problème de littéralement de cyberdépendance, ben ça c'est un problème qui lui revient à lui de régler plutôt que de s'imaginer que c'est à l'État de policer les réseaux sociaux. Non, écoute, les réseaux sociaux ne sont rien de plus qu'un révélateur des névroses et frustrations d'un paquet de gens. Et on leur a donné un micro. Mais maintenant, il faut vivre avec ça jusqu'à un certain point. Je ne dis pas que tout est acceptable, mais quand j'entends des gens dire, ben je pense que c'est lui-même qui l'a évoqué, il faudrait peut-être éduquer les jeunes au civisme sur les réseaux sociaux, patati patata. Hey, non, on exagère là. Est-ce qu'on a vraiment tous besoin de cela à dose massive, ben en tout cas, pas moi, et je m'en porte très bien.
Oui, puis de toute façon, je dirais, à l'école, là, il y a déjà assez d'affaires qu'on doit enseigner à l'école, puis même la base, on n'est pas capable de l'enseigner. Alors, si on commence à avoir à l'école des cours sur comment vous comporter dans la vie, c'est pas le rôle de l'école, ça s'appelle des parents. Ça s'appelle des parents.
Eh oui, ben écoute, on veut déjà maintenant transformer la nouvelle mouture de ECR en
ben
cours
oui.
sur la sexualité, l'alimentation, les réseaux sociaux, la religion, l'homophobie, et un petit peu de français et de maths à côté de ça.
Enfin. Oui, c'est ça. Que, enfin. D'abord, qu'on leur apprenne à parler comme du monde, qui parle pas, qui se mettent pas à parler comme... c'est Marc Bergevin qui disait « il faut qu'ils continuent ». Si on peut peut-être juste s'assurer de ça, déjà, ce sera bien. Puis, écoute, je suis même pas encore rentrée dans le sujet de, à l'époque où il était à Pimentfort, Dany Turcotte était peut-être parmi ceux aussi qui faisaient des blagues homophobes, qui faisaient des commentaires sur Michel Louvain, qui faisaient des commentaires sur Kathleen, sur Belgazou. Ils étaient vicieux, les gens, les humoristes qui participaient à Pimentfort.
Oui, non, mais ça c'est une dimension du problème que tu connais beaucoup mieux que moi. Peut-être qu'il goûte un peu à une médecine qu'il a lui-même jadis administrée à d'autres. Tu connais ça mieux que moi. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je l'ai fréquenté, ben écoute, j'ai été à cette émission-là deux fois, tout le monde en parle. La dernière fois, c'était quand j'étais revenu de la Catalogne, où j'avais été courir le référendum sur la souveraineté. Puis la dernière fois, écoute bien, la dernière fois, on m'a invité pour un débat sur pour ou contre l'interdiction des pitbulls, et j'aurais eu en face de moi Anne-France Goldwater, tu vois.
Et là
alors
là.
je m'étais dit, bon ben écoute, si déjà voir ces chiens dans la rue m'indispose un peu, je suis pas sûr que j'ai besoin d'une grosse prise de bec avec elle en studio. Donc j'ai décliné l'invitation. Ah. Je n'ai absolument rien de personnel contre M. Turcotte, que je trouve globalement gentil, poli, sympathique, et qui, évidemment, comme tout humoriste, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est une affaire de moyenne au bâton, hein? T'en réussis quelques-unes, t'en rates d'autres, et puis, ben, ça, c'est la vie. Mais à partir du moment où tu acceptes d'aller jouer à fond le jeu des réseaux sociaux, ben, écoute, Sophie, c'est du football, hein? Tu te mets un casque, tu vas sur le terrain, il y aura des plaquages.
Ouais. Très rapidement, changer le nom de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, t'en penses quoi? Pour contre
Je vais probablement surprendre un peu ma famille politique. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Je le souhaiterais. Évidemment, je le souhaiterais, mais c'est un peu pieux. C'est de la pensée magique, ça n'arrivera pas. Les révélations n'ont évidemment surpris que ceux qui ne savent pas à quel point Pierre-Elliott Trudeau méprisait son propre peuple. C'est évident que ça n'arrivera pas. Mais plus largement, le vrai problème est notre collègue Thomas Mulcair. Je me retrouve étonné d'être d'accord avec lui.
Ben oui, c'est surprenant. Non?
Thomas disait que le vrai problème, c'est l'ultra-politisation dans la désignation des lieux publics. En fait, je me suis toujours dit que il faudrait ne jamais agir dans la précipitation. Il faudrait probablement toujours attendre un certain nombre d'années avant d'examiner l'opportunité ou pas de changer le nom d'un endroit. Et surtout, il faudrait faire étudier ça par un panel d'historiens relativement neutres. C'est pas une décision de ministre de donner le nom d'un endroit au chef de ton ancien parti. C'est quelque chose qu'il faudrait dépolitiser au maximum. Oui. Maintenant, cela dit, à mon humble avis, Sophie, les souverainistes, en ce moment, ont d'autres combats plus urgents à mener que celui-là. Par exemple, la langue. Par exemple, la refonte des politiques d'intégration de l'immigration. Alors, voilà. Bon, écoute, je ne peux pas ne pas être sympathique, bien entendu, mais ça n'ira nulle part. Désolé de le dire.
Oui. Alors, juste pour terminer là-dessus, sur une petite note d'humour, l'humoriste Martin Petit, parce qu'il y a plein de gens qui s'amusent sur les médias sociaux à dire comment on devrait, et quel devrait être le nom de l'aéroport si jamais on devait en changer. Il a dit « L'aéroport commandant Piché sera ma seule proposition.
» Cela dit, Sophie, j'aurais aimé que les partisans du statu quo, notamment le NPD et le parti de M. Trudeau fils, est une justification un petit peu moins minable que notre priorité, c'est la pandémie en ce moment.
Mais oui. Sommes-nous surpris? De toute façon, c'est ce qu'ils nous répondent aussi quand on parle de We Charity, quand on parle de toutes sortes de sujets. La pandémie. Mais en tout cas, bon, bref. Merci beaucoup, Joseph. Et puis, on se retrouve jeudi. Merci beaucoup.
Au plaisir, au revoir, bonne semaine.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Régulièrement, à Cube Radio, je fais des entrevues avec Dr. Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre, elle est professeure-chercheure, elle est maintenant aussi auteure. Et son livre s'intitule « Redonner la santé à toute la famille, l'approche 180 contre l'obésité ». Dr. Julie Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Je trouve ça très intéressant que vous publiez ce livre. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans ce livre qui sont des choses dont on a déjà discuté, vous et moi. Il y a aussi beaucoup de choses nouvelles. Pourquoi utiliser le médium du livre pour rejoindre les gens, Dr. Saint-Pierre?
Bien, écoutez, moi, je trouvais que c'était le plus beau moyen de donner de l'éducation aux familles, aux Québécois, aux Québécoises, parce que quand on a un livre, pour être une grande lectrice moi-même depuis toujours, quand on a un livre dans les mains, c'est qu'on est disposé à recevoir l'information. Donc, on est déjà beaucoup plus ouvert au changement. Puis tout ce qu'on fait, nous, on le fait sur la base de la motivation au changement dans les familles. Donc, ça devenait pour moi un incontournable. En fait, j'ai rencontré 3 éditeurs, bien malgré moi, j'avais pas l'intention de faire ça en 2020. Puis finalement, c'est Catherine Lefebvre qui a écrit Suc, Vérité et Conséquences, ou qui m'a convaincue de d'ouvrir la discussion avec son propre éditeur à elle. Donc, puis je me suis dit, tiens, voilà, pourquoi pas. Disons que l'année a été occupée avec la COVID.
Oui, un petit peu. Alors, le cœur de votre livre, en fait, c'est pour nous, d'une certaine façon, je dirais, nous réapprendre à manger. C'est quand même assez incroyable qu'une activité que l'humanité fait depuis des milliers et des milliers d'années, qu'on soit obligé d'écrire un livre pour dire « Voici comment s'alimenter ». On a perdu la compréhension de ce que c'est manger. C'est fou, pareil.
Oui, puis nos compétences culinaires également. C'est sûr que si on met plus de temps sur les écrans, qu'on est toujours dans un système pressé, une société pressée, où est-ce que nous, entre autres les mamans, on est hyper carriéristes, mais en même temps, des fois on tourne les coins ronds un peu dans la cuisine parce qu'on veut tout faire, puis on s'est créé une anxiété de performance comme parents. Donc, le livre a pour but de déculpabiliser les mamans, mais les papas aussi, et de dire, gardez, prenons ça un jour à la fois, ayons une meilleure planification, on va sauver du temps, et de cette manière-là, des sous aussi, et nos enfants n'en seront que dans une meilleure situation de santé.
Oui. Alors, je sais que c'est un sujet dont on a parlé souvent ensemble, mais vous, votre cheval de bataille, c'est bien sûr l'obésité, ce qui est pas la même chose que, bon, la diversité des corps et tout ça. Il peut y avoir des corps de toutes les formes, de toutes les tailles et tout ça. Vous, le problème avec l'obésité, c'est que c'est une maladie. Là. C'est vraiment un problème. Oui. Comment on fait pour trouver les mots pour parler d'obésité, pour parler de surpoids, sans culpabiliser les gens, sans leur faire la morale, leur faire la leçon, et sans stigmatiser les gens qui sont en surpoids? On fait comment? Je trouve que c'est comme marcher sur des œufs.
Mais vous avez raison, parce que c'est une maladie qui est mal aimée depuis trop longtemps. Et la façon la plus déculpabilisante d'en parler, c'est d'abord de demander la permission. On l'a dit depuis l'été dernier avec les lignes directrices de traitement de l'obésité pour le Canada, où est-ce que la première chose, c'est de demander la permission aux patients. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité d'une relation médecin patient. Ça se fait pas, je veux dire, moi, je parle pas de l'hypertension puis de l'hypertrophie de la prostate des gens sur le coin de la rue, mais c'est la même chose. C'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui doit se faire dans le respect de l'environnement de la personne qui est devant nous, de son état de santé mentale au moment où est-ce qu'on en parle. Il y a des moments dans la vie, puis on le dit très bien dans le livre, t'es en train de te séparer, de refaire ta vie, tu perds ton emploi, t'es en pleine crise de pandémie. Il y a des situations où est-ce que l'anxiété ou le stress de notre quotidien ne permet pas de bons changements. Puis, on cherche pas la perfection, hein. C'est important de le dire encore. Moi, j'espère qu'à la lumière de la lecture de ce livre-là, les gens vont dire, ben, finalement, le poids, on s'en fout un peu.
Ouais.
sais, l'obésité, OK. Moi, j'ai appris beaucoup de cette maladie-là. Mais le livre, ça se veut surtout un éveil à dire qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur, madame, tout le monde, pour être plus en santé sans se compliquer la vie. Et bien sûr, encore une fois, je le rappelle, moi, mon père ne souffrait pas d'obésité quand il a fait son premier infarctus à 40 ans, mais il mangeait très mal. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces petits garçons-là? Ma grand-mère, elle disait, mon Dieu, Julie, je savais pas comment le nourrir. J'y donnais ce qu'il voulait parce que sinon, il mangeait rien. Ben, il y a des gens qui vont se retrouver dans ce livre-là parce qu'il y a tout un chapitre sur les mangeurs difficiles. Mais les mangeurs difficiles, là, Madame Durocher, souvent, c'est parce qu'il y a un parent qui est difficile ou un grand-parent qui dit « Arc, c'est pas bon ». Donc, il y a des trucs là-dedans. Comment on aborde toutes ces questions-là avec nos jeunes sans justement rajouter de la pression? Le poids, on n'en parle pas. On a des inquiétudes, on passe à l'action comme parents. Mais pour ça, il faut trouver les informations au bon endroit. Puis moi, quand les gens me demandent à chaque jour où est-ce que je peux avoir toutes les informations qu'on apprend dans vos équipes de l'approche 180, puis c'est la même chose pour mes collègues à Saguenay et à Québec, ben, j'avais un malaise, j'en avais pas de référence pour eux, où est-ce qu'on pouvait avoir l'information vulgarisée, puis avec un petit historique aussi, qu'on soit capable de suivre l'évolution de cette maladie-là dans le temps. Donc, le livre pour moi est devenu un outil de communication extrêmement important pour que les gens, la société, fassent des choix beaucoup plus libres.
Bon, alors vous parlez de société qui fait des choix, vous me voyez venir avec mes gros sabots, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement? Parce que je regarde ne serait-ce que la semaine dernière, vendredi, le gouvernement qui annonce que les piscines d'hôtels seront fermées en pleine semaine de relâche, alors qu'il y a plein de familles qui se disaient « bon, on va aller à l'hôtel, on va pouvoir un petit peu changer de notre quotidien, on va pouvoir passer du temps à la piscine, le sport c'est tellement important ». Paf, on décide de fermer les piscines d'hôtel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Ils se sont retrouvés devant des écrans.
Ben, encore une fois, parce que, écoutez, moi, là, comme femme de science, il y a beaucoup de choses que je suis plus capable de lire ou d'essayer de comprendre. J'ai toujours pratiqué la médecine en pesant les risques versus les bénéfices. C'est des choses qu'on a entendues de notre gouvernement depuis le début de la pandémie, hein, essayer de pas nuire puis faire du mieux qu'on peut. Mais je dois vous dire que dans ce genre de décision-là, je suis extrêmement déçue.
Ah oui?
Ah oui, parce que, écoutez, c'est plus des décisions sur des anticipations, puis on n'a pas d'écrit, on n'a pas de preuves. Ça devient difficile de comprendre comme scientifique sur le terrain qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des décisions qui sont prises. Espérons que, bon, le maintien de chiffres beaucoup plus moins dramatique que ce qu'on a vécu, mais il reste encore des décès, il y aura des décisions qui sont prises dans les prochains jours, semaines, qui vont permettre plus de saines habitudes auprès de la population québécoise. Mais bon, c'est comme femme de science, je trouve ça très difficile de suivre toutes ces décisions.
Oui, parce que, dans le fond, tout ce que dit votre livre, justement, c'est ça, c'est d'encourager des saines habitudes de vie, mais si, en particulier pour les adolescents, pour les jeunes, mais si on leur met constamment des bâtons dans les roues, puis qu'on je pense, par exemple, à toutes ces mesures-là, donc pour le sport et tout ça, c'est puis même juste d'être dehors à plusieurs enfants, puis de faire des activités, ben non, c'est pas permis, pas plus que deux, pas plus que quatre, pas plus que, ben voyons, on fait quoi avec nos enfants?
Ben, c'est justement, c'est qu'à un moment donné, comme vous dites, là, on cède. C'est sûr que de planifier, moi, là, je vais vous confier au début de la semaine, là, je voyais venir mon 10 ans, là, avec, avec plus que des sabots, là, un train, là, en me disant, maman, mais là, je peux-tu jouer, puis je peux-tu avoir une permission? Puis, mais je disais, mais Alex, non, on va planifier, tu vas voir. Choisis, c'est à quel moment dans la journée que tu voudrais avoir ton temps d'écran. Puis là, il a hésité. Puis là, bon, il me trouvait des arguments. J'ai dit non, tu as une heure par jour, à quel moment tu le fais? puis on n'en reparle plus de la semaine. Ben ça a marché, encore une fois. Mais
vous
le reste
parfaite,
du temps,
vous.
C'est sûr qu'il faut qu'on soit créatif. On doit les inventer des histoires. Moi, je suis chanceuse, j'ai une patinoire devant chez moi. Donc, c'est non négociable. C'est habille-toi à chaleur, puis vas-y une demi-heure, trois quarts d'heure, il fait froid. Mais il faut toujours, comme parent, être au-devant des choses, avoir des activités de planifier. Et changer leur intérêt. C'est sûr que on parle de livres aujourd'hui, puis il y a mon amie Nancy qui parle de son nouveau livre, elle aussi, puis les enfants aussi de la DPJ ne sont pas à l'abri. On doit les conseiller aussi dans les centres jeunesse puis les familles d'accueil à avoir de meilleures habitudes de vie. Ça fait partie de notre travail aussi à l'approche 180. Mais un autre livre qui vient tout juste de paraître, qui est très intéressant, c'est celui de Boris Cyrulnik sur vraiment toute la psycho-écologie.
Ah oui, tout à fait, hein. Ouais.
L'environnement d'un enfant, puis Sylvie Bernier nous le disait depuis longtemps, l'environnement favorable, hein, c'est pas juste d'avoir des pistes cyclables puis des infrastructures, c'est tout ce qui est autour de nos enfants. Puis ça, le livre, je pense, va nous amener à une réflexion.
Absolument. Et en plus, et en plus, on a une recette de sauce à spaghetti qui contient du tofu, mais les enfants se rendent même pas compte qu'il y a du tofu dedans. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Julie Saint-Pierre.
Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.
En tout cas, moi, je sais ce que je prépare à souper ce soir. La sauce à spaghetti, super bonne, avec du tofu. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la mise en onde, William Boivin, à la recherche. On se retrouve demain. Bon appétit. Merci.